Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Donc, bienvenue à tous au volet discussion du podcast Commerce Élite et on est avec Félix Robitaille aujourd'hui, directeur marketing de l'entreprise Cozy. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que Cozy? Eh bien, ici, on parle d'une entreprise qui se spécialise dans la vente de mobilier pour la maison. L'entreprise fut lancée en 2020 et grandit de manière excessivement vite depuis son lancement, en grande partie grâce à son marketing et ses produits, mais également au bon timing de lancement. Et on va discuter de tout ça ensemble aujourd'hui avec Félix Robitaille. Félix, merci beaucoup d'être avec nous.
Hey, merci Antoine. De m'accueillir dans le podcast.
Et Félix, avant d'attaquer un petit peu la discussion du jour qui va tourner entre marketing, préparation pour le Q4, parce que c'est assez intéressant comment vous abordez le Q4 chez Cozy, peux-tu me dire à quoi ressemble ton quotidien au moment où on se parle comme directeur marketing dans l'entreprise?
En fait, le quotidien, c'est très, très varié. On a quand même beaucoup de branches. Donc là, présentement, on est en train de développer aussi une branche retail qui prend une certaine partie de mon temps. Sinon, tout ce qui est planification d'attribution de budget digital à travers les différentes plateformes, puis aussi essayer de voir les différents channels qu'on veut utiliser dans les mois à venir, puis planifier comme il faut notre spend publicitaire pour aller chercher le meilleur retour sur nos investissements. Donc, beaucoup d'analyses, beaucoup de tests et de la recherche également. Tu sais, creative is king ces jours-ci. Donc, essayer aussi de travailler dans ce sens-là.
Et dis-moi, à quoi ressemble peut-être au moment où on se parle la taille de votre équipe marketing chez Cozy?
En fait, on a l'équipe est comme divisée en deux. On a l'équipe contenu plus, où on va avoir vraiment l'équipe plus création de contenu avec la directrice artistique Christine et son équipe qui sont environ 5-6. Puis dans l'équipe vraiment plus distribution, retail également, on est 5.
Je comprends. Intéressant. Donc, on est capable de mixer ça entre l'équipe de contenu et en termes de placement, mais est-ce que tout se fait à l'interne ou vous externalisez le tout?
Oui, en fait, tout ce qui est placement digital, on le fait à l'interne pour ce qui est de l'achat média, puis tout ce qui est placement out of home, donc billboard, radio et médias plus traditionnels, on le fait à travers une agence.
Intéressant. Et bon, on va commencer à parler du lancement, parce que soyons honnêtes, Cozy a été lancé pendant le COVID, un moment parfait, les gens étaient chez eux, les gens avaient besoin de mobilier, timing incroyable, croissance incroyable également du même coup. Mais là, on enregistre ce podcast aujourd'hui, 7 août 2023. Les choses ont quand même changé depuis la COVID. À quel point ça impacte les actions marketing d'une organisation comme la vôtre? Parce que vous lancez, vous avez le vent dans le dos, tout va bien. Ultimement, on fait un retour à la normale. Est-ce qu'on doit changer considérablement notre approche marketing?
En fait, nous, tu sais, je pense pas qu'on prenait vraiment le COVID comme on le prenait en compte tant que ça dans notre approche, dans le sens où on avait une approche qui était vraiment focussée sur le client, sur l'expérience client, sur le produit dans notre marketing. Puis en fait, le fait qu'il n'y ait plus rien de COVID, puis que tu sais le retail ait aussi repris de l'ampleur, ça n'a pas nécessairement changé la manière dont on voyait le marketing. Donc, on continue toujours à pousser dans la même direction. On n'a pas nécessairement eu besoin à s'adapter puis à changer de trajectoire à cause de la fin de la pandémie. Là.
Donc, structure assez similaire. Là. C'est la même chose un peu en termes d'initiatives qui étaient faites avant que maintenant.
Ben, c'est certain que nos initiatives se diversifient parce que la compagnie croît. Mais tu sais, je pense que s'il y avait encore la COVID, on serait toujours dans la même position. C'est certain que le fait que pendant la COVID, tout le monde était chez soi, il y a quand même eu un boom dans l'industrie là, du mobilier pour la maison, dans le sens où les gens prenaient soin de rénover leur maison, de faire des petits travaux, d'aménager leur salon comme il faut. Donc c'est certain que l'industrie du divan a quand même boomé. Là, ça, c'est sûr que peut-être une moins grosse croissance que ce qu'on a vu en 2020 pour ce qui est de la demande de divan, mais le fait qu'on a cherché des parts de marché sur le au Canada vient quand même supporter notre croissance. Donc, on n'est pas en décroissance.
Et bon, tu as mentionné un point plutôt qui est assez intéressant. Plus l'entreprise croît, plus on doit diversifier un petit peu les canaux publicitaires. Et ce qui est intéressant de votre côté, c'est que vous êtes fort en ligne, mais vous êtes également fort en marketing traditionnel. Vous semblez attaquer clairement les deux catégories. Est-ce que vous êtes capable de trouver un petit peu une complémentarité entre les deux? Comment vous approchez ça, vous, de votre côté, de se dire, bon, cette année, on va investir davantage en médias traditionnels comparativement du média numérique. Comment vous êtes capable de bien naviguer à travers ces deux approches-là?
En fait, je pense qu'il y a une certaine limite à ce qu'une compagnie ou ce qu'un brand peut accomplir en ligne, avec le niveau d'investissement et tout, puis aussi au niveau du sentiment de proximité qu'une compagnie en ligne peut avoir avec son audience. Donc, d'y aller aussi avec une approche en out of home, en publicité plus traditionnelle, avec des billboards, de la radio, on dirait que ça vient également créer davantage une proximité avec l'audience, puis aussi un sentiment de confiance avec une marque. T'sais, si on voit de la publicité d'une certaine compagnie, toujours en ligne avec des influenceurs et tout, on atteint quand même un certain niveau de confiance, mais pour aller en chercher davantage, je pense que lorsqu'on voit sur une autoroute, bon, ben, un panneau cosy, on est comme, OK, ben, ils sont là pour vrai. T'sais, c'est vraiment une compagnie canadienne, une compagnie québécoise. Ça vient créer un peu un sentiment de confiance et de présence, puis de we out there, puis en même temps, c'est plus en top funnel, là.
Donc, sûr.
On est capable d'aller créer un certain contexte de marque pour après ça, tu sais, si la personne voit un panneau publicitaire cosy, elle sait pas nécessairement c'est quoi, mais lorsqu'il vient le temps de se magasiner un divan ou des meubles, puis elle écrit sur Google divan en bois, divan modulaire, divan, puis qu'elle voit une publicité cosy par la suite sur un autre canal, mais capable de faire le lien, ah, c'est la compagnie que j'ai vue sur l'autoroute, sur un billboard. Donc, encore une fois, ça vient comme créer un aha moment qui est bien.
Donc, l'idée, c'est de se dire, à un certain point, on va caper un peu ce qu'on est capable d'aller chercher comme retour sur investissement en ayant une présence purement en ligne et d'avoir cette présence-là avec des canaux publicitaires qui sont distincts d'avantages traditionnels. Et corrige-moi si je me trompe, on n'a pas des attentes spécifiques en termes de retour, mais ça vient aider, renforcer la crédibilité de la marque et ultimement, peut-être même qu'on voit nos coûts d'acquisition en ligne descendre.
Oui, exactement. Ben, en fait, c'est vraiment difficile à mesurer sur le short term, sur le court terme, en fait, l'impact là, d'une campagne de panneaux publicitaires en out of home ou d'une campagne radio et tout, mais là où on peut, mettons, avoir vent de l'impact de notre campagne, c'est quand on croise des gens dans la rue qui nous disent « Hey, j'ai vu vos panneaux » ou qu'il y a des fournisseurs qui nous appellent ou des amis qui nous appellent disent « Hey, j'ai entendu à la radio, je t'ai vu sur tel panneau », les gens en parlent. On a fait un petit pop-up également à Montréal de 5 jours pendant la période du déménagement où on donnait des boîtes de déménagement gratuites aux Montréalais. Et on faisait essayer nos produits. Puis les gens nous disaient, ah, OK, j'ai vu vos panneaux ce printemps sur l'autoroute. J'ai entendu Cozy à la radio. Donc, c'est le fun d'avoir un certain feedback des gens qu'on croise aussi qui nous disent que le out of home at the end a un impact sur leur knowledge de la compagnie.
Clairement. Non, c'est assez intéressant. Et si on fait des petites recherches en ligne sur vous, on peut voir que sur une de vos pages couverture sur LinkedIn, vous avez dans le passé, utilisé, je crois que c'est un autobus ou un tramway dans lequel vous aviez littéralement intégré logo, bannière de l'organisation. Bref, ça avait été pardonnez-moi l'anglicisme, un spot média que vous avez utilisé. Comment vous les choisissez un petit peu, ces spots médias-là, entre billboard, faire de l'affichage sur des autobus, des tramways, faire des affichages peut-être à la radio, à la télévision? Comment vous arrivez à prendre ces décisions-là, de se dire, ce canal média-là pourrait être plus intéressant pour nous au moment où on se parle?
En fait, au début, les deux premières années on s'enligne sur notre troisième année où on va faire une campagne de out of home, donc de panneaux publicitaires. Les deux premières années, on le faisait à l'interne, donc c'est-à-dire on approchait des compagnies qui offrent ce type de placement-là, donc c'est des Outfront, des Patterson, des Astral, et on choisissait manuellement les panneaux. Donc, on regardait la liste de panneaux qui étaient offerts dans une certaine région. On regardait sur Google Maps de quoi ça a l'air en vrai. Tu sais, quand on place le petit bonhomme sur Google Maps, tu sais, voir est-ce qu'il y a un arbre qui obstrue le placement et tout. Puis ensuite, tu sais, on choisit est-ce qu'on veut vraiment cibler le centre-ville d'une ville ou d'une région, puis vraiment comme masse, être là en présence de masse dans une petite région, ou bien y aller plus large, un panneau par-ci par-là dans différentes villes. Donc nous, on est allé davantage avec des approches où c'était ciblé centre-ville, ciblé dans vraiment certaines régions pour avoir le plus de fréquences possible auprès de la cible. Puis ensuite, les placements qu'on choisit, c'est on veut être le plus cost-effective possible. Donc c'est certain que un petit panneau dans un métro coûte moins cher qu'un billboard 20 par 40 sur l'autoroute. Donc, c'est de faire un choix pour avoir le plus de fréquences possible, le plus d'impact possible. Donc, c'est un beau mix pour avoir le plus de visibilité, là. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Puis maintenant, on fait affaire avec une agence parce que on fait des campagnes out of home maintenant au Québec, donc à Montréal, à Vancouver et à Toronto. Puis de regarder les panneaux un par un sur Google Maps afin de les choisir, ça s'en vient un petit peu time consuming.
Bien sûr, j'imagine. Et dis-moi, on parlait de complémentarité. Plutôt, j'aimerais parler d'amplification avec toi. Si vous faites une campagne dans une région spécifique du Québec canadienne, est-ce que par la suite, ces investissements billboard que vous allez faire dans cet endroit spécifique vont impacter votre stratégie marketing numérique? C'est-à-dire, vous allez dire à vos équipes à l'interne, bon, là, en ce moment, on attaque une région spécifique de Vancouver, Calgary. On voudrait que dans ce rayon-là, on fasse X, Y, Z publicité pour amplifier le message. Est-ce que c'est des raisonnements, des analyses que vous avez eues à l'interne un peu?
Oui, on fait souvent une campagne digitale complémentaire à une campagne en out of home, en billboard. C'est sûr que ça dépend aussi du niveau de présence qu'on a dans une certaine région. Donc, tu sais, mettons, à Montréal ou à Vancouver, c'était pas des aussi grandes présences de panneaux. Donc, on a juste gardé notre structure digitale evergreen au même niveau, avec peut-être une petite campagne en Google Search de plus pour vraiment s'assurer de capturer tout le trafic puis l'intention. Mais quand on fait des plus grosses campagnes avec des plus gros investissements, comme ce qu'on fait à Toronto à tous les années, là, on vient pairer la campagne avec une campagne digitale qui a les mêmes créatifs, des visuels qui vont bien venir, qui sont représentatifs de ce qu'on voit sur les panneaux pour que les gens fassent davantage le lien. Donc, tout dépendamment du niveau d'investissement puis de la saturation de notre présence là, sur un territoire.
Intéressant. Et dis-moi, tu parles de Toronto un petit peu. Comment se déroule un petit peu cette expansion pan-canadienne? Bien entendu, vous êtes lancé au Québec, vous avez été connu davantage au Québec. De plus en plus, vous êtes partout au Canada. Quels sont les défis de s'intégrer dans des nouvelles provinces? Qu'est-ce qui a été différent comparativement à ce que vous avez été capable de faire au Québec?
En fait, on a commencé Québec-Ontario. Donc, en ciblant vraiment les plus grandes villes de manière digitale encore une fois. Puis ensuite, on a une fois qu'on sentait qu'on maîtrisait davantage nos campagnes au Québec et en Ontario, on a décidé de pousser notre ciblage pour tout le Canada. Donc, tu sais, je dirais que c'est petit à petit, petit pas, tu sais, on commence par cibler les plus grandes villes, puis ensuite, on laissait, bien entendu, les algorithmes travailler Canada at large et cibler de manière efficace les bonnes personnes, dépendamment des villes. Puis, on vient également de lancer aux États-Unis, là, un mois. Donc, c'est un nouveau marché aussi. Puis, on utilise ça se déroule bien jusqu'à là. Très, très heureux des résultats qu'on voit depuis un mois. Wow. Donc, très content du ROAS et l'impact qu'on a. Puis, on utilise un petit peu la même stratégie où on va attaquer de manière digitale en marketing un secteur X au départ. Donc, on va pas targeter les États-Unis at large en partant. On s'entend que c'est un immense marché, tu sais, 10 fois plus gros que le marché canadien. Donc déjà, en ciblant, on a ciblé, mettons, notre centre de distribution avec un rayon de 500 km autour, puis on commence par ça. Puis une fois qu'on va sentir qu'on maîtrise ce rayon-là, on va être en mesure de l'agrandir.
Totalement fascinant. Et bon, un autre point que j'aimerais parler avec toi, le Q4. Le Q4, c'est également fascinant de votre côté parce que de ce que tu me disais, pas beaucoup de promotions que vous allez mettre de l'avant pendant ces périodes-là. C'est pas une période où est-ce que les prix sur le site web de Cozy vont descendre tant que ça. Parle-nous un petit peu de comment vous abordez ces périodes de novembre et décembre.
Ouais, en fait, chez Cozy, on discounte pas nos produits. En fait, t'as raison pour laquelle on discount pas. On discount jamais, mais que ce soit au Boxing Day, au Black Friday, au Cyber Monday, c'est qu'on essaie vraiment de donner le maximum de valeur aux consommateurs tout au long de l'année, en offrant le meilleur prix possible tout au long de l'année. Donc, on discounte pas encore plus pendant ces grandes périodes de magasinage-là. On garde nos prix qui sont bas tout au long de l'année. Puis, en fait, d'un point de vue marketing, digital, les gens que au Black Friday, Cyber Monday et Boxing Day sont déjà enclins à acheter. Sont déjà dans le mood. Ils ont déjà la carte de crédit dans les mains, prêts à faire leur achat pour Noël. Donc, c'est peu importe. Ils voient qu'on offre un bon produit à un prix qui est plus bas que la compétition sur beaucoup d'items. Donc, déjà, ça reste un deal tout le temps. Donc, les ventes se font super bien pour nous. Puis, on voit quand même un pic dans les ventes pendant ces périodes-là. Étant donné que les gens sont dans un mood, ils analysent le produit, ils voient, bon, mais Cozy reste la meilleure option, même s'ils ne discountent pas. Donc, c'est un petit peu notre approche. Puis, en fait, on vient comme, en termes de stratégie digitale, on essaie de faire beaucoup d'acquisitions de trafic dans les mois avant, tu sais, octobre, pour être en mesure ensuite d'avoir un beau pool de reciblage pour octobre, novembre, décembre.
Et dis-moi, il y a beaucoup de changements qui se sont quand même déroulés au niveau économique en 2023. On parle continuellement que les gens sont un petit peu plus restreints, le portefeuille est limité. Vous êtes quand même dans une catégorie d'entreprises qui, on peut obligatoirement des fois même avoir besoin d'un nouveau sofa chez soi, mais tout de même, des fois on peut peut-être se dire, ça va peut-être attendre un an, ça va peut-être attendre deux ans, donc ça peut des fois ne pas être prioritaire dans la tête des consommateurs. Comment cette structure ou même cette conjoncture-là économique, entre parenthèses, parce qu'on n'est pas tellement certain qu'elle arrive, des fois elle arrive, des fois elle n'arrive pas, mais on a été capable de le voir quand même sur Commercialite que certains annonceurs, d'ailleurs un qui est venu récemment, Little Burgundy, nous disait que clairement, ils ont été capables de voir que le consommateur avait été impacté cette année. Vous abordez ça comment chez Cozy? Est-ce que ça vous a obligé à revoir certaines stratégies, ce qui se déroule au niveau économique?
C'est certain qu'on a réajusté un petit peu les budgets, les prévisions en fonction de ça. T'sais, l'industrie du meuble a quand même été touchée, je pense, pendant cette période économique plus instable-là. Mais chez Cozy, on a quand même été en mesure de croître pas mal pendant cette période de down pour le furniture en général. Donc, ce qui est super bien pour nous. Fait qu'on n'a pas vu encore une fois de décroissance. Ouais. On continue de croître tout de même là, à chaque quart de l'année, malgré cette situation économique-là. Mais c'est certain que le conversion rate, overall, les gens, on pouvait sentir et voir sur les campagnes que les gens étaient moins enclins à acheter en général un divan, un produit comme ça. Mais on continuait à gagner des parts de marché. Donc, au niveau des ventes totales de l'entreprise, on n'a pas vu de gros drop, mais c'est certain que c'est moins que ce qui était peut-être anticipé, ne prenant pas en compte cette situation économique instable-là.
Intéressant. Écoute, je terminerai avec toi, Félix, aujourd'hui, en te posant une question qui aura également une sous-question. Quel était ton plus bel apprentissage marketing depuis que tu es chez Cozy et comment ça impacte un petit peu ta vision des 12-24 prochains mois pour les initiatives que tu veux mettre en place?
Bonne question. En fait, c'est certain que c'est le plus gros apprentissage marketing, je pense, c'est de vraiment step back et voir de manière holistique l'impact des actions marketing qu'une compagnie peut avoir sur un comportement d'achat. Donc, tu sais, tous les canaux sont importants et ont leur rôle à jouer qui est bien distinct. Tu sais, de vraiment bien comprendre un peu le comportement du consommateur qui change tout le temps aussi. Donc, c'est tough. C'est difficile des fois de bien comprendre le comportement du consommateur, puis de voir, tu sais, quel levier dans l'écosystème de marketing on peut tirer, puis on peut bouger pour avoir un impact sur le comportement d'achat, surtout dans le meuble. Donc, tu sais, en fait, pour les prochains mois, la manière qu'on va voir ça, c'est que là, il y a le côté expérience retail qu'on va aller développer dans les prochains mois, donc ouvrir un premier magasin Cozy. Puis, tu sais, réattribuer aussi le pourcentage de budget qui va aller à chacun des canaux pour essayer de trouver la formule secrète qui a le meilleur impact sur le taux de conversion final. Donc, vraiment de jouer avec ces leviers-là pour trouver le bon dosage de chacun.
C'est ce que tout le monde recherche, hein, mais c'est une bonne manière de voir les choses. Félix, écoute, ça a été super intéressant de discuter avec toi aujourd'hui. Clairement, cette fameuse approche de marketing traditionnel, on la ressent de plus en plus qu'on parle avec des directeurs marketing sur le podcast. On dirait qu'on, si on veut augmenter les investissements qu'on va faire en ligne, il semble que ça vient par des investissements hors ligne, paradoxalement. Donc, c'est assez intéressant de t'entendre sur ce sujet. Je te remercie beaucoup. Et si on veut en apprendre un petit peu plus sur Cozy, j'imagine, meilleur endroit, votre site internet.
Exactement, cozy.ca. C'est le meilleur endroit pour en apprendre plus sur Cozy.
Fantastique. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Félix Robitaille, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Élite.